France Inter.
La sobriété des outils et des actions, c'est l'une des choses que j'aime le plus dans ce métier. On y fait des gestes élémentaires et simples. Scier, porter, clouer, visser, mais dans des conditions souvent périlleuses. En haut d'un toit, allongé sur une poutre, en équilibre sur un mur. C'est en somme la rencontre contradictoire entre un environnement de travail qui demande une prudence de tous les instants et des actions qui exigent de déployer une grande force physique. Arthur Lockman est ce soir notre invité à l'occasion de la publication de son premier livre intitulé « La vie solide », sous-titre « La charpente comme éthique du fer ». Et comme chaque soir, et particulièrement le lundi soir, nous allons commencer en musique avec Johnny Cash et June Carter Cash.
If I were a carpenter and you were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby?
If you were a carpenter and I were a lady, I'd marry you anyway. I'd have your baby.
If a tinker was my trade, would I still find you?
I'd be carrying the pot you made, following behind you.
Save your love through loneliness, save your love through sorrow.
I gave you my onlyness, give me your tomorrow. If I were a miller and a mill wheel grinding, would you miss your colored blouse and your soft shoes shining?
If you were a miller and a mill wheel grinding, I'd not miss my colored blouse and my soft shoes shining.
Save your love through loneliness, save your love through sorrow.
I gave you my onlyness, give me your tomorrow. If I worked my hands in wood, would you still love me?
I'd answer you, yes I would.
And would you not be above me? If I were a carpenter and you were a lady,
I'd marry you anyway, I'd have your baby.
Save your love through loneliness, save your love through sorrow.
I gave you my onlyness, give me your tomorrow.
Êtes-vous en proie au vertige, Arthur ?
Je l'ai été pendant très longtemps. Comme je suis un petit peu sadomaso, j'allais en montagne beaucoup, je faisais pas mal d'escalade. Et puis, une fois sur les toits, j'ai continué à constater que j'avais le vertige. Et je marchais à quatre pattes sur les chevrons. Je faisais la risée de pas mal de mes collègues. Et puis, avec le temps, le vertige passe.
Que voit-on au sommet d'une charpente ?
On voit surtout le sol, qui est très loin. Et puis on voit les oiseaux qui souvent volent au-dessus des toits, viennent s'informer de l'avancement des travaux. Mais on voit le sol.
Comment s'habitue le corps à ce nouveau métier ?
Le corps, c'est... Enfin, je reprends régulièrement la charpente après de longues pauses. Et je suis toujours frappé.
Il faut s'arrêter quand on est charpentier.
J'alterne, en fait, avec d'autres activités, avec la traduction. Mais quand je reprends la charpente, je suis constaté de la vitesse à laquelle change le corps. Notamment mes doigts. Après de quelques semaines de charpente, j'ai du mal à croiser les doigts.
Vous n'avez pas d'épines, hein ? Je vois vos mains là.
J'ai plus d'échardes, mais j'en ai eu beaucoup dans les premières semaines de ma formation, quand la peau n'est pas encore assez épaissie par le travail. En tout cas, ce qui est vraiment frappant, c'est la vitesse à laquelle le corps s'adapte à des nouveaux gestes, à des nouvelles exigences, et en particulier les mains. Quand le cale se forme à la pointe des doigts et à la base des phalanges, la sensibilité s'exacerbe à ces endroits-là et permet d'être plus précis dans les gestes.
Alors voilà, il y a très peu de semaines, j'ai reçu au courrier un livre qui s'intitulait « La vie solide », auteur complètement inconnu, et c'est normal puisque c'est votre premier texte. « La charpente comme éthique du fer », c'est le sous-titre, et j'ai ouvert, et ça a été un coup de foudre, à la fois pour le pacte de sincérité que vous faites avec le lecteur, et puis avec cette expérience de vie que vous décrivez admirablement. Que vous est-il arrivé, et qu'étiez-vous avant d'être charpentier ?
Avant d'être charpentier, j'étais un étudiant un peu perdu, à la fac de philo et à la fac de droit. Et puis, je ne savais plus trop ce que je faisais là, après quelques années d'études, et j'ai voulu apprendre des langues. Et je me suis dit, par un raisonnement un peu alambiqué, que apprendre un métier comme celui de charpentier, ça me permettrait de voyager. Ce que d'ailleurs confirme la devise des compagnons allemands qui dit « voyager pour travailler, travailler pour voyager ». Et donc, j'ai fait un CAP pendant un an, et je suis parti ensuite en Allemagne, où j'ai appris l'allemand, et où j'ai appris, où j'ai continué à apprendre le métier.
Manifestement, vous avez fait des études de philosophie.
J'ai fait des études de philosophie assez courtes, mais je les ai mises en application ensuite pendant plusieurs années, aussi bien sur les chantiers qu'en traduisant de la philosophie.
Donc ce sont les traversées des textes philosophiques et les récits de la vie et de l'apprentissage de la vie qui vous ont conduit à essayer d'expérimenter ce que vous ne compreniez qu'à mi-mot dans les livres que vous étudiez.
C'est plutôt quelque chose qui m'est tombé dessus, cette décision de faire un CAP de charpente. Elle était un moyen pour un but, savoir celui d'apprendre des langues et lire de nouvelles langues. Et donc, je n'avais pas du tout l'intention de mettre en pratique quoi que ce soit. C'est plutôt en constatant la pratique que j'ai pu développer des nouvelles idées philosophiques.
Alors, malgré votre jeune âge, Arthur Lockman, vous ne faites pas partie de... cette partie de la jeunesse qui revendique le retour aux valeurs traditionnelles, au compagnonnage, tout ça, ça vous était égal ? C'était vous servir de vos mains ?
Ça m'était assez égal, j'ai pas une estime particulière pour la tradition. Je pense que c'est, en tout cas dans le bâtiment, simplement l'accumulation des efforts au fil du temps pour améliorer les techniques de construction et qu'à cet égard, la tradition n'a pas de sens si elle est figée, elle est toujours en mouvement, elle doit toujours s'adapter à la modernité. Donc c'était pas du tout un attrait pour la tradition, pour la coutume, pour les clochers qui m'a guidé. C'était plutôt l'envie d'apprendre un métier pour partir.
Vous êtes grand, plutôt gracile. Vous n'avez pas un corps fait pour l'adversité ni pour les tâches les plus difficiles sur le plan physique. Comment avez-vous été accepté, voire accueilli au début quand vous êtes entré en apprentissage ?
J'ajouterais même que je suis gaucher. Et que ça m'a joué des tours dès mes premiers jours dans les
centres de formation. Vous en parlez dans le livre.
Mais comme je disais tout à l'heure, ce qui est frappant dans le corps, c'est sa capacité à s'adapter à des nouvelles tâches auxquelles on ne pensait pas du tout être capable de faire face.
Qu'est-ce qu'un corps pour vous ? Et qu'est-ce que votre corps, quand il a commencé à monter en haut des sommets et que vous avez pu regarder enfin le ciel tout en tremblant les premières fois ?
Comme disait Spinoza, on ne sait pas ce que peut un corps. Et on en découvre chaque jour quand on se met en difficulté ou en danger, que ce soit par le vertige, que ce soit par de nouveaux gestes. Et surtout, on découvre qu'on peut sentir toujours plus précisément quand on répète les gestes et qu'on les approfondit.
Mais je vous propose d'écouter la voix d'un grand anthropologue qui était aussi un grand ethnologue et aussi un philosophe, puisqu'il s'appelait André Leroy-Gourhan. Il a construit une philosophie à partir justement de l'importance des gestes et notamment de l'importance de la main et de cette main qui a été l'apprentissage par la main. Pour l'homme, a été un des premiers signes de l'humanisation de l'homme. En tout cas, c'est la théorie d'André Leroy-Gourhan. Nous allons l'écouter. Il va parler de la main et du travail manuel. C'est une archive INA du 16 septembre 1969.
Au niveau humain proprement dit, c'est-à-dire à partir du moment où le langage intervient de manière prépondérante, les opérations vitales restent les mêmes, c'est-à-dire essentiellement techniques et sociales, mais elles sont réfléchies dans le langage. De sorte que les opérations manuelles, le travail manuel, sont par conséquent d'autant plus valorisées qu'elles vont de l'individuel au collectif et de l'inconscient au symbolique. L'opposition n'est donc pas, comme le laisserait supposer le titre de cette communication, entre le travail manuel et le travail intellectuel, c'est, dans toutes les civilisations depuis l'apparition de l'homme, un jeu beaucoup plus complexe, la progression, l'évolution d'opérations manuelles de plus en plus chargées de symboles sociaux.
Alors, nous venons d'entendre la voix d'André Leroy-Gourhan. Deux questions à propos de cette archive, Arthur. D'une part, effectivement, nous vivons actuellement dans une société qui ne cesse d'opposer le travail manuel au travail intellectuel. Vous en faites l'admirable démonstration que non seulement il n'y a pas opposition, mais il y a fécondation entre les deux disciplines et qu'elles peuvent s'épauler l'une l'autre, voire s'exciter l'une l'autre. On ne pense peut-être jamais aussi intensément qu'au sommet d'une charpente. En tout cas, c'est ce que vous dites dans ce premier livre que vous publiez. Et que d'autre part, la main, est-ce que ça a été la main, l'instrument principal de votre corps quand vous avez été accepté comme charpentier, que vous avez commencé à travailler à votre premier chantier?
J'étais très peu manuel au début. Et...
cérébral, intello.
Je pensais qu'il suffisait de bien comprendre les choses pour bien les faire. Et j'ai eu quelques déconvenues assez cuisantes. Un jour, un de mes formateurs est venu à mon établi et m'a dit « Tu te fais une manucure à la scie égoïne ?» Effectivement, j'avais les doigts en sang, les ongles arrachés, parce que je ne maîtrisais pas du tout la scie. Et les gestes, il ne suffit pas de les analyser, il faut les répéter. C'est par la répétition qu'on les développe, qu'on les peaufine, qu'on les précise. Et contrairement à ce qu'on peut penser, la répétition n'a rien de lassant. Il y a même des violonistes, notamment Isaac Stern, qui affirment que plus on répète, moins la répétition est lassante. Plus on maîtrise une chose, plus on sent les nuances à travers cette même chose. Et donc, il y a bien plutôt qu'une maîtrise, un approfondissement constant de la sensibilité, de la précision des gestes. Et la main n'est jamais qu'une un moyen pour... enfin, la main est toujours appuyée par les outils. Les outils sont des prolongements de la main. Ils deviennent petit à petit des prolongements de la main qu'on oublie, qui disparaissent du champ de la perception. Et les outils nous permettent d'accéder à différents aspects de la matière, que ce soit le copeau par le rabot, que ce soit la fibre par la scie. Si on scie perpendiculairement au fil du bois ou dans le sens du fil du bois, la sensation n'est pas la même. Et du coup, les outils permettent d'aller plus loin que ce que permet la main pour sentir la structure de la matière, l'intériorité de la matière.
Il ne faut pas penser son geste. Le geste doit devenir d'une fluidité telle qu'il paraît presque naturel.
Le bon geste, c'est toujours celui qui paraît très simple, celui qui demande le moindre d'effort et celui qui a la plus grande évidence. Ça se ressent et ça se voit quand on observe des gens qui maîtrisent tous les gestes, que ce soit un charpentier, mais n'importe quel métier manuel, et en particulier les danseurs. L'évidence s'impose, la simplicité, la facilité du geste s'impose.
Quand vous avez décidé de devenir charpentier, alors vous aviez fait des études de philo, Arthur Lockman, il a fallu vous rendre à l'évidence, c'était un métier compliqué, avec ses rites, ses codes et ses langues. Qu'a-t-il été le plus difficile à intégrer, à apprendre et à conserver à l'intérieur de la mémoire ?
C'était le perpétuel écart entre les gestes très physiques et les règles de construction qu'il faut concilier, c'est-à-dire la mise en œuvre constante à travers des gestes qui eux-mêmes sont difficiles à apprendre, de règles de construction qui sont d'un tout ordre, c'est-à-dire concilier le sens du détail par le bon geste et la vision d'ensemble d'une charpente. C'est deux dimensions très différentes, l'une particulièrement abstraite, la science de l'espace, de la représentation dans l'espace, et la matérialité extrême du geste manuel.
Comment appelle-t-on les petits genoux qui commencent dans la charpente et qui vont s'agiter toute la journée pour porter aide à ceux qui savent travailler ?
Il y a tout un bestiaire dans le langage des compagnons. Les vieux s'appellent les chimpanzés. Et les jeunes s'appellent les lapins, du nom du petit ergot qui se trouve au bout du mètre et qui permet d'accrocher le mètre sur un morceau de bois ou un morceau de bois. Et donc le lapin court accrocher le mètre pour son maître, son encadrant. Il est à son service et il court partout.
Alors, êtes-vous devenu un chimpanzé après avoir été un si bon petit lapin ?
Je suis pas resté assez longtemps sur les chantiers pour être devenu un chimpanzé, et puis mon vertige m'en empêche encore.
Alors, dans cet ouvrage, vous décrivez admirablement, Arthur Lockman, cette sensation de liberté illimitée que vous procure le panorama de cet espace à 90 degrés que vous découvrez au sommet d'une charpente. Impossible de ne pas penser à celui que vous citez, d'ailleurs à l'intérieur de ce livre, le philosophe Gaston Bachelard. Il va nous parler de la poétique de l'espace. Écoutez-le avec son accent inimitable. C'est une archive du 13 février 1963.
Effectivement, j'ai fait jadis un livre où il y avait le mot « espace » dans le titre, « La physique de l'espace » ou « l'espace » ou « l'expérience de l'espace » dans la physique contemporaine. Le présent livre est tout à fait différent. Il veut montrer que l'espace a des qualités de refuge, des qualités de protection, où l'homme va non pas tant penser que rêver. Par conséquent, c'est un ouvrage qui est dans la ligne de tous ceux que j'ai fait sur la rêverie poétique. Il faudrait donc qu'il y ait ici encore un sous-titre qui indique qu'il s'agit de la physique, de l'espace physique d'un rêveur.
Alors, le rêve-t-on cet espace quand on est au sommet d'une charpente, Arthur Lockman ?
C'est un espace très particulier que celui que forme la charpente. La charpente, c'est seulement une structure. Il n'y a pas encore la couverture, il n'y a pas encore les murs. C'est seulement une forme de quadrillage. C'est quelque chose encore très abstrait. Et pourtant, quand on pose les premiers éléments de la charpente, il y a déjà une sensation d'espace qui se forme quand on se trouve sous la charpente. Il y a une délimitation vraiment très effacée, très diffuse de l'espace, et pourtant l'espace est en train de naître. Et c'est vraiment ça le moment de la charpente, c'est la naissance de l'espace, on assiste à la naissance de l'espace.
Alors ces espaces, ils sont très structurés, ils sont même très symboliques. Vous décrivez formidablement bien la manière d'assembler une charpente, il y a plusieurs phases de travail. Il y a des bouts de bois qui sont inversés, il y a des triangles qui sont dessinés, comme si tout ça était ultra-codé et remonté à l'aube de l'humanité.
On peut dire que c'est ça peut-être ce qui est la tradition dans la charpente, c'est-à-dire l'accumulation d'efforts, de techniques et d'observations sur ce qui permet d'assurer la meilleure durabilité d'une construction. Et puis, culturellement ou géographiquement, les techniques de construction se spécialisent. Et notamment, si on compare la France à l'Allemagne, les techniques de construction sont très différentes d'un pays à l'autre. Et d'ailleurs, c'est très frappant de parcourir ne serait-ce que la France.
C'est ce que vous avez fait en tant que compagnon.
C'est ça. Enfin, je ne suis pas compagnon, mais j'ai fait une sorte de compagnonnage sauvage. C'est-à-dire que j'ai choisi moi-même des chantiers où je souhaitais travailler pour découvrir de nouvelles régions, de nouvelles façons de travailler.
Et puis c'était le paysage que vous choisissiez ou c'était les constructions ?
C'était plutôt les gens, les types de structures qui travaillaient, c'est-à-dire des scopes notamment, des gens qui choisissaient de mettre en commun les outils de travail, les moyens de production. Et c'est une approche qui est très diffusée dans le milieu de la charpente, qui recueille pas mal d'idéalistes déçus par la vie contemporaine.
Donc les scopes, c'est des associations qui permettent de se reconnaître comme égaux à l'intérieur d'un même travail.
Voilà, ou dans lesquelles les employés sont tous destinés ou appelés à devenir associés, à participer aux décisions de la structure de travail et qui privilégient la démocratie au sein de l'entreprise.
Non, on sent beaucoup de solidarité à l'intérieur de ce milieu de la charpente. Arthur Lockman, c'est ce que vous décrivez, non seulement dans votre compagnonnage en Allemagne, mais aussi en France. Vous dites que tout le monde est à égalité, en tout cas dans les chantiers que vous avez décidé de faire. Mais en tout cas, on sent aussi, c'est peut-être paradoxal, on sent aussi qu'il y a le poids et la sédimentation de l'expérience. Il y a ceux qui savent, et on parlera des femmes, parce que vous indignez du fait qu'il y a très peu de femmes charpentières, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas sur les chantiers, il y a toujours une ou deux personnes qui en savent beaucoup plus que les autres et qui sont d'ailleurs extrêmement solidaires des plus jeunes.
C'est pour ça que les chantiers, c'est un lieu de transmission constant, un lieu d'apprentissage constant. Il y a toujours des gens, ou une ou deux personnes qui savent plus. Et il y a toujours des personnes, des apprentis qui savent moins. Et qui se trouvent à faire pour la première fois, ou pour les premières fois, des gestes que l'autre ont fait 100 000 fois.
Et donc le... Par exemple?
Par exemple, clouer, par exemple, poser des tuiles. Et on posait une tuile, ça a l'air très simple, mais il y a des façons de le faire qui permettent d'être plus efficaces, de se faire moins mal au dos. Tout ça, ce sont des choses qui s'apprennent sur le chantier, sur le tas, par l'apprentissage, plus que par l'enseignement. Donc, le chantier, c'est un lieu d'apprentissage constant, de transmission constante.
Pas par le langage, hein, parce que c'est un milieu taiseux, c'est des gestes.
On montre les choses et c'est tellement difficile de décrire des gestes qu'il est beaucoup plus facile de les montrer et de corriger des postures, corriger en touchant, en corrigeant le corps de l'autre qu'en lui indiquant ce qui, par le langage, ce qui fait le mal.
Vous avez expliqué tout à l'heure en début d'émission, Arthur Lockman, pourquoi vous aviez décidé de devenir charpentier. Vous n'avez pas dit que votre père était maçon et que quand vous étiez petit, vous construisiez des sortes de huttes avec des branchages. Il y avait déjà la sensation d'avoir votre espace à vous, ou de maîtriser quelque part l'espace.
Effectivement, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, la sensation de la charpente comme espace en train de se former, comme première délimitation entre l'intérieur et l'extérieur, c'est la même sensation que j'avais quand j'étais petit et que je construisais des cabanes. Mais par contre, pour ce qui est de mon père, effectivement, il était maçon, mais j'avais un dégoût profond pour le ciment, pour l'eau. C'était quelque chose de très sale auquel je voulais pas me mêler. Et puis, c'est seulement une fois que j'ai appris le métier de charpentier que je me suis remis, ou que j'ai appris goût à faire de la maçonnerie sur des chantiers de charpente.
Alors, parlez-nous des bois et des différents bois. Il y a des bois nobles et des bois un peu vulgaires.
Il y a des bois nobles, enfin il y a un bois noble qui est le chêne, qui est lourd et qui prend beaucoup de temps à croître. Il y a des bois moins nobles comme le sapin. J'avais beaucoup de mal à les distinguer quand j'ai commencé la formation, mais le soir quand je regardais mes mains, je constatais que les échardes n'étaient pas les mêmes en fonction du bois que j'avais manipulé. Ça tient à la structure des bois qui correspondent à différents stades de l'évolution des végétaux. Les fibres du chêne sont beaucoup plus courtes et denses, tandis que celles du sapin sont très longues et très détachables les unes des autres, moins solidaires les unes des autres. Et donc les échardes que dégagent ces différents bois sont très différents dans la peau et permettent de les distinguer les uns des autres.
Et puis il y a l'odeur.
Et puis il y a aussi l'odeur, il y a l'odeur notamment du red cedar, le cèdre rouge, qui est une odeur poivrée très enveloppante, qui est censée chasser les moustiques et que donc on utilise en bardage, mais qui est tellement forte qu'elle donne mal à la tête.
La lune influence-t-elle le bois, ou croyez-vous aux superstitions, Arthur Lockman ?
Je suis pas très à l'aise sur cette question de l'influence de la lune, j'en ai fait état dans le livre. Il paraît que la lune descendante est favorable à la durabilité du bois. parce que l'eau qui reste dans le bois est attirée vers la terre par la lune descendante. Je ne suis pas tout à fait sûr de la véracité de cette information.
Mais quand un chantier commence, vous n'attendez pas que la lune soit descendante ou ascendante, ou qu'elle soit pleine
Non, c'est pour l'abattage du bois que le cycle de la lune est important, pas pour la mise en œuvre du bois.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez Le Choix d'Arthur Lockman, Nina Simone, Mr. Bojangle.
I knew a man, Bojangles, and he danced for you. Worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt and baggy pants. The old soft shoe. He jumped so high, jumped so high. Then he lightly touched the down. I met him in a cell in New Orleans. I was down and out. He looked at me to be the eyes of age as he spoke right out. He laughed and slapped his leg a step. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles. He said his name, Bojangles, then he danced the lake. Across the sand, he grabbed his pants, a better stance. Oh, how he jumped up high. He clicked his heels. He let go alive. Let go alive. He stood up and shook back his clothes all around. He danced for those at minstrel shows and county fairs throughout the South. He spoke with the tears of 15 how his dog and he traveled about. His dog up and died. He just up and died. After 20 years he still grieved. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, and he said, I dance now at every chance and honky tonks for drink. Tips. But most of the time I spend behind these county bars, he said, I drink some beer. He shook his head, and as he shook his head, I heard someone respectfully ask,
Vous avez échappé à Claude François, Si j'avais un marteau, mais Nina Simone, Mr. Bojangles, c'est magnifique. Pourquoi ce choix, Arthur ?
Cette chanson, pour moi, c'est l'histoire d'un geste. Elle commence par l'évocation du pas de danse d'un danseur que la narratrice connaît, et puis elle se plonge dans ce qui se cache derrière ce geste, dans l'histoire de ce danseur, toute sa vie de SDF, et le fait qu'il danse pour gagner sa vie. Et puis ensuite on revient à ce pas de danse qu'elle décrit à nouveau à la fin de la chanson. Et en fait elle révèle tout ce qui se cache à travers les gestes, toute l'expérience, toute la vie qui s'exprime à travers un petit mouvement, un saut, un atterrissage. C'est la beauté du geste.
Évoquons la communauté que vous décrivez, Arthur Lockman, à l'intérieur des différentes expériences de chantier. Elle est toujours éphémère et tout le monde le sait, mais en même temps, elle est très solide, cette communauté. Tout s'arrêtera définitivement ou on peut retrouver d'autres compagnons dans d'autres chantiers 6 mois, 9 mois, 1 an après?
Je crois que c'est l'esprit du compagnonnage, d'aller et venir, de se retrouver pour un chantier, de se retrouver une année sur l'autre en reformant une équipe qui a bien marché, où les sympathies se sont formées. Il m'est arrivé plusieurs fois de retourner d'une année sur l'autre, en Allemagne notamment, pour le plaisir de travailler avec des gens. Mais surtout, pendant le moment du chantier, il y a comme un esprit de cordée, bien moins héroïque qu'en montagne, mais beaucoup plus quotidien, beaucoup plus solidaire pour le quotidien. La cordée sur un toit où on a entre soi non pas une corde, mais une poutre qu'il faut mener jusqu'en haut du toit. Et c'est un lien aussi bien plus fort que celui de la montagne, je trouve.
Manifestement, ce que vous préférez dans les chantiers, Arthur, c'est des chantiers où vous pouvez dormir sur place, c'est-à-dire c'est la coupure avec le monde du quotidien. Et vous êtes tous ensemble, tout le temps, jour et nuit, attachés soit à la réhabilitation d'un bâtiment, soit à la construction, plus d'ailleurs à la réhabilitation qu'à la construction.
J'aime bien l'idée de réparer les choses plutôt que de construire du nouveau. La réhabilitation, ça veut pas uniquement dire restaurer à l'identique. Au contraire, ça veut dire redonner vie, transformer pour adapter à la modernité avec des nouveaux matériaux, des nouvelles techniques. J'ai pas un goût particulier pour la restauration.
Vous croyez à l'esprit des lieux ?
Je l'ai jamais ressenti particulièrement, l'esprit des lieux. Je sens les volumes, les espaces, la séparation entre l'intérieur et l'extérieur. Mais l'esprit des lieux m'a jamais frappé.
À partir de quel moment vous commencez à tutoyer les oiseaux ? Au bout de combien de jours ?
J'ai du mal à reconnaître les oiseaux.
Oh bah écoutez, pourtant vous les tutoyez du haut de votre charpente.
Ce sont des passages rapides et soudains. Je les salue d'un geste bref.
Alors en même temps, vous êtes, comme vous êtes très jeune, vous êtes très attiré par la modernité de votre métier. Vous n'opposez pas tradition, savoir-faire avec nouvelles technologies. Vous faites remarquer à juste titre que la mode des maisons en bois et la mode de l'écologie se répand de plus en plus rapidement, et c'est tant mieux. Et vous faites remarquer que, justement, là encore, ce n'est pas une opposition, c'est une complémentarité qu'on peut faire avancer à l'intérieur de notre manière de vivre l'espace, c'est-à-dire tout ce qu'on sait sur le bois peut justement se traduire par une nouvelle manière d'habiter sans pour autant offenser gravement la nature.
Oui, on découvre de nouveaux usages, de nouvelles qualités du bois encore aujourd'hui. On constate notamment que certaines essences de bois permettent de résister aux ondes électromagnétiques, donc de protéger par exemple du Wi-Fi ou des ondes téléphoniques. Ce qui m'a frappé dans la découverte de ce métier ou l'apprentissage de ce métier, c'est la coexistence constante entre la tradition et la modernité. Mais pour moi, c'est pas une contradiction, puisque la tradition en tant qu'accumulation de savoir-faire, c'est aussi l'évolution constante, l'amélioration constante, et c'est pas du tout une forme de savoir figé, tourné vers le passé.
Nous avons demandé à un philosophe comme vous, mais qui a une certaine expérience de la philosophie et qui, je crois, n'est jamais monté au sommet d'un toit et qui n'a jamais su scier une planche de bois, de dire ce qu'il pensait de votre ouvrage. Écoutez-le, il s'appelle Robert Maggiori.
J'ai beaucoup aimé le livre d'Arthur Lockman, La vie solide. C'est vrai que je suis très intéressé par la réévaluation, disons, de ce qui est le manuel. Précisément parce que je pense qu'aujourd'hui, la philosophie doit récupérer cette dimension, disons, matérielle, qu'elle ne s'éloigne pas et qu'elle ne se réfugie pas dans des sortes de chapelles, de dômes, de cathédrales théoriques. On ne sait plus ce qu'est une plante, une odeur, quelque chose qui coule, quelque chose de visqueux, quelque chose de dur. Moi, j'aime bien que les gens s'intéressent précisément à ce qu'il y a dans la vie concrète, enfin dans la vie réelle. Et j'ai trouvé que ce jeune homme, j'imagine qu'il est jeune parce que je ne le connais pas du tout, qui a entrepris des études de philosophie, se met tout d'un coup à être charpentier en prenant le bois comme symbole précisément à la fois de la droiture morale, et puis de prendre la charpente comme une sorte de limite entre la terre et le ciel, justement, mais en partant toujours de la terre. Par exemple, j'ai beaucoup aimé les pages où il parle de ses mains, où il parle des mains qui sont ébréchées, qui sont pleines de cicatrices, où il y a des échardes, parce que précisément le maniement du bois est quelque chose de dur, quelque chose qui vous confronte effectivement à une difficulté, à un dépassement, et c'est tout le corps qui se met en branle et s'adapte à ce qu'il doit faire, ou plutôt se forme de façon telle à ce que la tâche qu'il accomplit se réalise de la meilleure des manières. Et donc j'avais trouvé ça un peu comparable à ce qu'on fait en philosophie lorsqu'on tente effectivement d'élaborer une conception en mettant en place, en clouant les concepts pour que ça tienne, pour que ça devienne une logique. J'ai trouvé que cette logique du texte, du geste qu'il décrivait, pouvait être un enseignement pour la logique du concept que les philosophes peuvent effectivement mettre en place. Et donc ça m'avait beaucoup plu, voilà. Lockman dit à la fin que ça pourrait être pour nous une sorte d'orientation dans notre société très liquide, et d'avoir ces rochers ou ces pointes encastrées de bois permet peut-être ça permet de suspendre la question de l'identité. Qui suis-je? Ouais, à force de se demander qui suis-je, on finit par tourner en rond, pour la remplacer par la question de l'agir. Que dois-je faire? S'il fallait que je demande quelque chose effectivement à M. Lockman, c'est de dire maintenant qu'il a non pas fait une philosophie de la charpente, mais qui à partir de la charpente a tiré une philosophie, est-ce qu'il ne voudrait pas se remettre très sérieusement à des études de philosophie pour qu'il aboutisse effectivement à une véritable conception philosophique qui défrirait sans faire appel effectivement à la charpente?
Alors voilà une bonne question. Donc on peut rassurer Robert Maggiori. Oui, vous êtes jeune. Vous m'avez dit avant d'entrer dans ce studio, car quand je vous ai découvert, je vous ai trouvé super jeune. Vous m'avez dit, j'ai quand même 33 ans. D'ailleurs, c'est un âge très compliqué, 33 ans, quand on est charpentier, parce que...
Ça peut mal se terminer.
Ça peut mal se terminer, c'est ce que vous dites d'ailleurs dans votre ouvrage. Mais répondez d'abord à la question de Robert Maggiori. Est-ce que vous allez reprendre des études?
Je vais à la fois le satisfaire et le décevoir, parce que j'ai repris des études, mais de droit. Sans doute pour des raisons assez identiques à celles qu'il invoque. Pour moi, la charpente, c'était l'apprentissage. C'était une expérience charnelle du bien commun. C'est-à-dire l'expérience de ces savoirs qui ont été accumulés avec le temps et qu'on continue à entretenir dans le corps de métier. L'expérience de savoir qui appartiennent à tous. L'artisan, depuis toujours, depuis les épopées homériques, est défini comme le démiurgos, c'est-à-dire celui qui est responsable d'un art public qui sert au bien de la communauté. Et quand on est sur un chantier et qu'on apprend ses savoir-faire, enfin, j'étais frappé d'ailleurs sur chacun des chantiers, du goût des artisans pour la transmission de leur savoir-faire, pour la préservation de ces savoir-faire. Et donc l'apprentissage, c'est une forme d'expérience, oui, charnelle, de ce que c'est que le bien commun, de ce bien commun qui a été formé au fil des siècles par le corps de métier.
Alors pourquoi voulez-vous faire du droit après de la philosophie et après la charpente?
Eh bien parce qu'il me semble qu'à l'époque où le savoir est menacé par la privatisation, par une tendance lourde de privatisation, le savoir, mais aussi les espèces végétales, les semences. Le droit est sans doute le meilleur des outils pour défendre le bien commun.
Dans votre livre, Arthur Lockman, vous dites que le compagnonnage est une sorte de socle primordial à partir duquel non seulement on peut apprendre le métier, mais on peut aussi le transmettre. Et on peut aussi se sentir responsable. Cette notion de responsabilité parcourt l'ensemble de votre ouvrage. Et vous dites, à propos justement des compagnons, je cite la parole du compagnonnage, « Toute parole reçue que tu n'as pas transmise est une parole volée. » Et on a l'impression qu'à l'intérieur de cette expérience du compagnonnage, il y a quand même une sorte de réhabilitation de la philosophie d'une vie plus solidaire, plus égalitaire, et peut-être une manière de penser aussi notre hyper-modernité du monde. D'ailleurs, vous faites référence à des systèmes d'exploitation d'un logiciel libre et d'une manière de partager le savoir sur Internet, à partir de votre expérience de charpentier.
Oui, ce qu'on disait sur le bien commun à l'instant, c'est-à-dire le fait que les charpentiers, le corps de métier, maîtrisent des savoirs qui ont été développés au service par la communauté et au service de la communauté. On retrouve ce modèle chez les développeurs Linux qui, en déplaçant la communauté, non plus dans le temps, mais dans l'espace, c'est-à-dire l'ensemble des développeurs qui existent aujourd'hui sur la planète, travaillent ensemble à l'élaboration du meilleur outil, du meilleur savoir-faire en matière informatique, avec pour présupposer que c'est la collaboration du plus grand nombre qui permettra d'obtenir le meilleur résultat. Plutôt que de privatiser les savoirs, ils préfèrent une participation collective à l'élaboration de ces savoirs.
Tout le monde semble égal à tout le monde quand un chantier commence. En tout cas, dans l'expérience que vous nous restituez, c'est ce qu'on ressent très fortement. Quel que soit son âge, quelle que soit sa compétence, on est tous partis non pas sur le même bateau, mais sur la même charpente. Il va falloir s'élever très haut, il va falloir prendre beaucoup de risques, il va falloir avoir un corps qui quelquefois se déséquilibre, mais qui doit trouver son centre de gravité. Toutes ces notions-là, vous les décrivez formidablement dans une expérience à la fois existentielle et très physique. Je vous propose d'écouter la voix de Roland Barthes à propos du corps. C'est une archive INA du 13 novembre 1978. Roland Barthes, que d'ailleurs vous citez énormément à l'intérieur de votre premier ouvrage.
D'ailleurs, je crois qu'il faut d'abord commencer par dire qu'il y a plusieurs corps, effectivement. Que c'est un objet qui a l'air très simple, très objectif, très physique, le corps humain. Tout le monde pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Alors en réalité, n'est-ce pas, on s'aperçoit qu'il y a des disciplines extrêmement diverses, des sciences très diverses, qui sont aptes à prendre en charge un certain corps humain et que ces corps, je dirais, ont beaucoup de mal à communiquer entre eux. Et le corps humain, ça semble aujourd'hui un objet scientifique aussi hétéroclite, aussi immaîtrisable que le langage l'a été au début de ce siècle quand un grand linguiste comme Saussure a en quelque sorte unifié les points d'attaque sur le langage.
Alors il y a le corps, et Roland Barthes vient d'en parler admirablement. Il y a aussi la parole, on l'a dit tout à l'heure, les chantiers sont très silencieux, c'est le corps qui s'exprime et c'est le corps qui va communiquer avec d'autres corps, pas besoin de langue pour cela, mais il y a aussi les savoirs. Et vous citez Roland Barthes, Arthur Lockman, à propos justement des types de transmission des savoirs, c'est très passionnant aussi cette piste que vous ouvrez. Il y a l'enseignement, le maternage et l'apprentissage.
Effectivement, Roland Barthes fait cette distinction entre trois modes de transmission du savoir. Le maternage, c'est celui des parents qui encouragent leur enfant à marcher, à se mettre à marcher, à parler, qui non pas lui montre les gestes, mais l'encourage à les faire. L'enseignement, c'est celui qui délivre un savoir par la parole uniquement. Et l'apprentissage, c'est le fait de montrer le geste, de montrer, de non pas expliquer comment faire, mais faire le geste à la place et mettre en scène un savoir pour qu'il puisse être reproduit.
Les femmes, on parle du corps, mais vous parlez des femmes aussi. Vous avez rencontré dans vos différentes expériences quelques charpentières ou quelques femmes charpentiers, je ne sais pas comment il faut le dire.
J'ai eu le plaisir de travailler avec deux des 17 femmes charpentières.
17 seulement. Et combien y a-t-il de charpentiers ?
17 000, ou en tout cas, oui, environ 20 000.
Mais alors pourquoi ?
On fait croire aux femmes que elles ont une moins bonne vision dans l'espace. Dans le dernier ouvrage de Cyrus Fett sur la séparation entre le corps et l'âme, il est évoqué un grand nombre d'études sur la capacité des femmes à voir dans l'espace. Et elle montre d'une part que aucune étude scientifique ne permet d'établir que les femmes voient moins bien dans l'espace que les hommes. Et en revanche, elle montre que lorsqu'on dit aux femmes qu'elles voient moins bien dans l'espace, elles, de fait, elles voient moins bien dans l'espace, ou elles réussissent moins aux tests qui les font, aux tests de vision dans l'espace.
Alors nous allons écouter justement la voix de Cyrus Fett, qui est une grande intellectuelle d'origine américaine, qui travaille depuis longtemps sur le corps et puis sur la possibilité de l'accord entre le corps et l'esprit, et qui a travaillé dans de nombreuses institutions pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Elle va parler de son avant-dernier essai, Les mirages de la certitude et la problématique du corps et de l'esprit. C'est une archive INA du 20 janvier 2018.
En effet, parce que, en fait, l'essai en question est un long essai sur la problématique corps-esprit, et donc c'est un livre qui est un petit peu anti-cartésien, puisque on prend à contre-pied l'idée de Descartes qui sépare en quelque sorte le corps et l'esprit, ou l'âme et le corps, et je veux montrer comment certaines idées philosophiques, et notamment l'idée de dualisme, idée qui avait été quand même évoquée et développée par Descartes lui-même, c'est quelque chose dont nous avons hérité même dans les sciences, même dans les neurosciences et en intelligence artificielle notamment. Et ces idées-là de dualisme ont fait naître ou abouti à un certain nombre d'impasses intellectuelles. Et donc moi, ce que je propose de faire, justement pour dépasser cela, c'est d'aborder le problème d'autres points de vue, de nouvelles perspectives, en faisant intervenir notamment la phénoménologie, les idées de Merleau-Ponty, où là, je crois que ceci a une influence considérable sur ce que l'on appelle aujourd'hui les sciences cognitives de deuxième génération.
Alors, on vient d'entendre Cyrus Fett, et vous, à l'issue de votre livre, Arthur Lockman, La vie solide, on s'aperçoit que la vie, votre vie, en tout cas, le sentiment que vous nous donnez à nous, lectrices et lecteurs, de votre vie, c'est qu'elle vous paraît plus solide, sans mauvais jeu de mots.
C'est un petit peu où je suis pris dans un paradoxe, c'est-à-dire que j'ai pu faire l'expérience de cette vie solide des chantiers et de la charpente, parce que la vie s'est fluidifiée, ou l'époque est plus fluide, et j'ai pu aller à l'université, faire une prépa, puis quitter l'université pour aller sur des chantiers. J'ai été accepté parce que c'était quelque chose de normal de faire des reconversions aujourd'hui. Et puis j'ai pu reprendre des études de droit, puisque c'est aussi normal de reprendre des études à 30 ans. Il y a 10 ans, quand j'étais à la fac de droit, on disait ne faites pas de Erasmus, ne partez pas en Erasmus, vous n'aurez pas de Master 2. Et aujourd'hui, on valorise, même dans cette institution assez conservatrice qu'est la fac de droit, des parcours atypiques. C'est donc la modernité liquide qui m'a permis de faire cette expérience de la vie solide.
Et en même temps, on se dit que vous avez appris la mesure du temps. C'est-à-dire que cette expérience du chantier, que vous allez peut-être reprendre après vos études de droit, rien ne vous interdit de retourner sur le chantier, puisqu'on est charpentier à vie, j'imagine, non ?
Je garderai pour toujours, je pense, le goût de la charpente, mais une des expériences les plus frappantes, c'est effectivement celle du temps. Celle du temps à travers lequel ont duré les charpentes sur lesquelles on intervient pendant la rénovation, mais aussi celle du temps à venir quand on installe une charpente. C'est-à-dire que aujourd'hui, les gestes sont très rares qui nous inscrivent ou qui s'inscrivent dans une durée de plusieurs années. Quand on installe une charpente, quand on pose une poutre, on la met dans une position où elle ne bougera plus pendant 20, 30, 40 ans. C'est un geste fabuleux d'immobiliser pour plusieurs décennies un objet. Ça n'arrive quasiment jamais. Et puis l'autre expérience du temps qui est fantastique, c'est celle qui consiste à revenir sur les chantiers où on a travaillé. Et on voit au fil des ans et avec le passage des intempéries, le bois changer de couleur, les fibres s'ouvrir, le bois se vriller. Et c'est pas l'expérience de la permanence des choses, c'est l'expérience de la durée, du passage du temps sur les choses. Et quand je dis ça, j'en ai fait l'expérience à travers la matière, mais je pense que c'est encore plus vrai pour les gens qui travaillent dans le soin ou dans l'enseignement et qui voient avec le temps la maturation des êtres. C'est quelque chose que j'en vis.
Ben, vous êtes sur le bon chemin. Merci infiniment Arthur Lockman. Je citerai une dernière phrase à la fin de votre ouvrage. J'ai appris à penser matériellement en me servant de mes mains, en admettant le verdict des choses. J'ai appris à penser mes gestes, à anticiper les séquences de travail, à envisager les projets dans leur globalité tout en sachant que les problèmes se posent dans les détails. À faire et ne pas avoir peur d'expérimenter, à ne pas miser sur le talent qui brille un instant, mais sur une certaine forme de labeur qui ancre dans le corps. Et j'ai appris tout cela peu à peu, très lentement. Merci infiniment pour ce premier ouvrage, Arthur Lockman.
Merci.
La vie solide, la charpente comme éthique du fer, c'est aux éditions Payot.
Cette maison, c'est le lieu de mon repos. Elle donne sur la rue pourtant, face au bistrot. Un peu plus loin, la pharmacie, le groupe scolaire du village et tous ces gens qui passent. Ils n'ont pas vraiment d'âge. Il est un étang aussi, là-bas, quand j'ouvre grand la fenêtre du salon. J'y salue les eaux calmes chaque matin. Et les eaux calmes me répondent, et je me sens revivre, tiens. Elles me rappellent tes caresses, tes baisers. Alors, je peux démarrer ma journée. Je brûle de mille feux, je brûle de mille feux, je brûle.
Hello, ça va?
Une maison de pierre blanche, d'où l'on observe les souvenirs de l'enfance et de la grande adolescence. Je n'avais pas conscience des détours qu'il faudrait prendre, et peu importe. Tout au bout, je savais le plaisir, les voyages, un baiser. Alors, je peux démarrer ma journée. Je m'en vais. De mille feux, je brûle. De mille feux, je brûle. Pour toi, tu sais, tu ne sais pas peut-être, je te le dis alors. Pour toi, souvent, je suis comme dans un grand brasier. À la simple évocation de ton nom, de tes yeux, je brûle. Je brûle, peut-être que je suis amoureux, amoureux. Je ne sais pas, je ne sais plus, de toute façon. Je ne te le dirai pas, pour ne pas t'effrayer, pour ne pas m'effrayer aussi, mais je brûle, je danse pour toi, je ne me lasse plus d'être moi. Je brûle, je brûle, je brûle, de mille feux, je brûle, je brûle.
C'est Baptiste Hamon qui interprète ce titre, je brûle, je brûle, je brûle, je brûle pas, je brûle. Je pense que Mischka brûle de l'autre côté du studio, mais c'est pas encore tout de suite votre moment. Je voudrais d'abord remercier Charles Pélabon qui était à la technique ce soir, Jean-Baptiste Audibert, Anne-Sophie Dazard, Élodie Royer, Antoine Joubert et bien sûr Lilian Alaume qui a réalisé cette émission.